Aujourd'hui l'Église.
1947-1956, les découvertes de Qumran, sans doute le plus grand événement archéologique du XXe siècle. Les restes de près de 900 rouleaux juifs datés du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. Des écrits découverts dans 11 grottes situées au bord de la mer Morte. Les écrits de Qumran sont désormais disponibles dans leur totalité. Et un peu plus de 60 ans plus tard, l'un des plus grands spécialistes de la question, André Paul, que nous avons la joie de recevoir sur notre plateau, décide de rendre ces découvertes accessibles à tous à travers la réalisation d'une toute nouvelle édition, la publication du tome 1 de la bibliothèque de Qumran, paru aux éditions du Cerf en 2008. Alors que nous révèlent ces manuscrits en matière de connaissance et de compréhension de la société judaïque, pré-chrétienne et pré-rabbinique? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec nos invités. André Paul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur donc d'une œuvre extrêmement importante et originale sur le judaïsme ancien, sur l'histoire de la formation et de l'interprétation de la Bible. Vous avez toujours ou presque été passionné par les rouleaux de la mer Morte. Vous dirigez la publication de tous les manuscrits de Qumran et des autres sites dits de la mer Morte, textes originaux avec traduction nouvelle. Et je cite les références de 3 de vos ouvrages. Alors, les écrits de Qumran et sectes juives au 1er siècle de l'islam, paru en 69. Les
manuscrits... C'était ma thèse.
Votre première thèse. Ensuite, les manuscrits de la mer Morte en 97 et 2000. Et puis, Qumran et les Esséniens, c'est le dernier ouvrage paru donc en 2000. Michael Langlois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, quant à vous, docteur en philologie. Vous êtes chercheur au Collège de France, à la chaire des milieux bibliques. Et vous enseignez la critique textuelle de l'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. On peut dire que vous parlez l'araméen. Et vous faites partie donc des traducteurs de la bibliothèque de Qumran. Alors, première question à chacun. Quels sont les fragments décrits dans toutes vos découvertes qui vous ont le plus ébloui intellectuellement et peut-être spirituellement? André Paul.
C'est avant que vous posiez la question.
Mais à l'un et à l'autre. On va commencer
Je vais répondre, André Paul. J'ai l'avantage de l'âge, si tant est que ça n'est un. Je pense que ce sont les derniers que j'ai pu étudier et que j'ai pu vraiment approfondir, et dans le cadre des connaissances que j'avais acquises de maintenant depuis plus d'un demi-siècle.
Vous étiez en seconde quand vous avez découvert les premiers...
Oui, j'étais en seconde, je crois, en 1947, lorsque j'ai entendu parler des découvertes d'un article de la Croix qui nous avait été lu par le professeur de religion au collège Notre-Dame de Comminges dans les Pyrénées centrales. Ensuite, il se trouve que jeune étudiant, au début des années 50, j'ai commencé à apprendre l'hébreu sur le manuscrit publié en fac-similé de la règle de la communauté de Qumran. Ce était en 51-52, et après une interruption de 3 années pour satisfaire mon devoir national militaire en Algérie, au Maroc et auparavant en Allemagne, je suis rentré en octobre 57, disons à la fois à la faculté des lettres et faculté de théologie à Toulouse, et là j'avais suivi les cours du professeur Delcor, qui était assez connu à l'époque comme l'un des spécialistes et des pionniers sur les manuscrits de la mer Morte, et j'ai travaillé sur la nouvelle édition qui venait de paraître du texte araméen de l'Apocryphe de la Genèse. C'est une espèce de roman merveilleux sur les patriarches, et j'ai appris l'araméen sur ces textes-là. Oui, j'ai démarré directement mon apprentissage de l'araméen et de l'hébreu sur les textes de Qumran, et il y a déjà plus d'un demi-siècle.
Quelle chance!
Je me suis passionné. Alors, suivant ensuite tout un curriculum qui m'a permis d'approfondir des connaissances sur les origines du christianisme et sur le judaïsme ancien, j'ai donc suivi toutes les publications à peu près importantes sur les manuscrits de la mer Morte. Et depuis une dizaine d'années, je pense être en possession de tout ce qui a à peu près paru de sérieux sur la question.
Alors, ce sont donc ces dernières publications
Ce qui m'a passionné, ce sont deux choses. Premièrement, les derniers textes publiés, je dirais, dont on a eu connaissance dans les années 1990, ce que l'on a appelé des textes de sagesse plus ou moins tournée vers l'au-delà, vers la fin des temps, etc., mais que je considère de plus en plus comme des textes pré-gnostiques. Et là-dessus, j'ai ouvert tout un secteur, disons, d'investigation et de travail que je poursuis sur la gnose judaïque pré-chrétienne, dont on a certainement les informations directes, culturelles, dans pas mal de manuscrits de la mer Morte. J'y loge même beaucoup de textes dualistes dont on pourra reparler tout à l'heure. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, Ce qui me passionne de plus en plus, en tant que je suis aussi un théologien de formation, puisque j'ai fait mon doctorat en théologie dans d'excellentes conditions dans ma jeunesse, ce qui intéresse beaucoup, c'est ce que j'appelle l'archéologie des doctrines sur le Christ. L'archéologie, c'est un petit peu dans le sens de Michel Foucault, c'est prétentieux, mais enfin, disons, c'est réel quand même.
C'est-à-dire resituer sur le terrain, dans leurs époques.
Oui, oui, l'en-deçà qui va nous faire comprendre tout un contexte, toute une dynamique qui va peut-être remettre en question aussi, révolutionner la conception peut-être trop rigide que nous en avons. L'en-deçà plus, disons, diversifié, quelquefois contradictoire, de ce qui va aboutir aux doctrines sur le Christ que nous trouvons déjà théorisées, systématiquement, d'une façon admirable chez Paul de Tarse, par exemple.
Alors, on va reparler de tout ça. Vous, Michael Langlois, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé? Qu'est-ce qui vous captive dans ces manuscrits de Qumran?
Voilà, la première rencontre que j'ai faite avec les manuscrits de Qumran, c'était le grand rouleau d'Isaïe, rouleau complet du prophète Isaïe, qui fait plusieurs mètres de long. Et qui
que vous avez vu de vos propres yeux.
Que j'ai eu l'occasion de voir récemment de mes propres yeux, mais à l'époque, je démarrais mes études de théologie, je m'intéressais à la Bible, au texte de la Bible, et pour moi c'est extraordinaire d'avoir un manuscrit aussi ancien, beaucoup plus ancien que le texte hébreu qu'on avait à notre disposition jusqu'alors. Il est de 1000 ans plus ancien que le texte qu'on avait, et pour moi c'était une véritable révolution. C'était mon premier contact, évidemment, par
Pourquoi
la suite.
Pourquoi est-ce que c'était une véritable révolution?
C'est-à-dire que tout le monde se pose la question de l'histoire du texte. Vous mentionnez tout à l'heure que j'enseigne la critique textuelle de l'Ancien Testament. Effectivement, faire l'histoire du texte, ça m'intéresse. De dire ce texte qu'on a dans la main, c'est notre Bible, on la lit, et on s'interroge sur son origine, sur la composition, sur la rédaction de ces textes, et même on s'interroge sur la fiabilité, quelque part, des textes qu'on a sous les yeux. Et surtout quand on compare différents manuscrits anciens, qu'on voit des différences, on essaie de comprendre comment le texte a pu vivre, évoluer, être transmis dans des milieux différents. Et malheureusement, on manquait de données pour le texte hébreu. La Bible hébraïque la plus ancienne qu'on ait à notre disposition, elle date de l'an 1000 de notre ère environ. C'est quand même très tardif. Et là, d'un seul coup, on faisait un bond de plus de 1000 ans en arrière et on retrouvait un rouleau complet du prophète Isaïe, qui est par ailleurs un très beau texte. Et c'est vrai que pour moi, ça a été magique dès le premier regard. Alors après ça, évidemment, on explore davantage cette collection, on rencontre tout un tas d'autres livres, des livres qui ne sont pas dans nos Bibles, mais qui étaient pourtant largement lus, copiés, recopiés dans ces milieux juifs. Alors forcément, ensuite, c'est comme un engrenage, on met le doigt dedans, on peut plus s'en sortir, ça devient une véritable passion.
On creuse ouais. Et on n'a jamais fini de creuser. Alors André Paul, vous dites dans votre dernier ouvrage, il s'intitule ainsi, « Qumran et les Esséniens, l'éclatement d'un dogme » paru aux éditions du Cerf. Vous dites « Les manuscrits de la mer morte renouvellent considérablement la vision du milieu direct qui vit se manifester Jésus de Nazareth et ses compagnons, puis les premiers collecteurs, interprètes et théoriciens des messages de ces derniers. Que nous révèlent-ils ? Dites-nous la vérité.
La vérité, c'est d'autres choses. Mais, disons, une approche de celle-ci, peut-être, ce qu'il nous révèle, je crois que le mot est pertinent, ouais. Car les choses étaient cachées. Elles étaient cachées comme d'une façon noble, admirable, disons, et spirituellement, disons, attachante, car nous avions une approche de la société, j'emploie le mot société à dessein, de la société judaïque contemporaine de Jésus, donc antérieure également, par des textes et des documents qui étaient postérieurs. Essentiellement les textes du Nouveau Testament, et qui sont quand même des textes, disons, qui émanent d'une muse de foi. Ce sont des attestations de foi avec un habit littéraire contemporain, gréco-romain, judaïque, mêlé, et enfin, en même temps, avec une élaboration pédagogique, polémique par moment, si j'étais malicieux, je dirais de propagande, pour jouer un petit peu le païen de service, mais enfin, nous avions donc une approche de cette société, de certains de ces secteurs, de son organisation, avec des étiquettes, pharisiens, sadducéens, etc., qui était quand même assez tardif et en même temps a posteriori et avec ce que j'appelais tout de suite un écran d'une certaine façon. Or maintenant nous avons, c'est pour ça qu'une révélation, c'est-à-dire que le voile représenté par cet écran, quel qu'il en fût, disons, de la richesse de celui-ci, nous avons accès directement par ces témoins qui datent de l'époque, nous avons accès non pas à des étiquettes, à des systématisations a posteriori, mais nous avons accès à la société elle-même. Mais
La compréhension du fonctionnement de cette société, finalement.
D'une certaine façon. Pourquoi j'ai dit société? Parce que c'est une chose qui est déjà très, très organique, qui est fluente, qui est pleine de crises, pleine d'espoir, pleine d'utopie, qui s'exprime, qui écrit. Et on écrivait beaucoup dans cette société. Et pour cause, on a redécouvert quand même l'équivalent de 900 rouleaux dans un secteur très limité. Ce qui veut dire que dans ce même secteur, il y en avait d'autres qui ont disparu parce que soit on les a volés dans le temps ou dans l'espace, soit ils ont disparu parce qu'il y a eu la corrosion, les avaries qui sont dues aux facteurs physiques ou autres, des vers par exemple ou de la vermine. Mais enfin, ce qu'il en reste, mettons que ça représente 50% de ce qu'il y avait de déposé, c'est certain, mais c'est énorme pour l'époque, c'est énorme. Nous avons donc une richesse culturelle qui nous donne accès directement à cette effervescence, cette mouvance, avec des écarts, des excès, même des contradictions. Tout cela fait une société. Et donc c'est la culture dans laquelle a poussé, à laquelle a tété, j'allais dire, Jésus de Nazareth et également Paul de Tarse, avec laquelle maintenant nous pouvons, partiellement bien sûr, mais nous pouvons compter d'une façon directe. J'ajoute quand même, je mets un bémol, c'est que c'est cette attestation, ces témoins, quel que soit leur intérêt et leur richesse, ce sont quand même des témoins écrits. Donc, ils sont eux-mêmes déjà une lecture.
Déjà un écran.
Oui, un écran. Comme je disais tout à l'heure, vous avez raison. Ils sont une lecture, une interprétation, une médiation et une projection dans un idéal, souvent, peut-être dans une utopie, mais enfin, dans un idéal codifié qui est celui du nouvel ou du vrai ou du purifié Israël. Et de ce qu'on pouvait chercher à l'époque. Alors, il faut compter aussi avec... Il faut interpréter une interprétation d'une réalité. Mais tout ça est passionnant.
On n'a jamais fini de... Comme vous le disiez...
Même on dirait que maintenant que nous avons tous les textes, seulement depuis fin 2001, on dirait que tout recommence. Ou tout a recommencé dans les années 2000-2003. Et alors, nous intervenons maintenant, enfin, des chercheurs comme, jeunes chercheurs comme Michael, très motivé, très dynamique, et déjà très savant comme Michael Langlois, interviennent. Moi, je suis davantage là-dedans un témoin, un chroniqueur, et un communicateur, je crois que c'est très important qu'on puisse le faire. J'ai fait ce travail de recherche pendant longtemps, mais des jeunes personnalités comme Michael Langlois interviennent dans ces terrains où on a l'impression que tout recommence.
Alors, pourquoi justement tout recommence en 2000-2001, ça veut dire que des fragments que l'on avait classés à certains endroits, finalement, se classent ailleurs et révèlent autre chose de ce qu'on pensait être une certaine vérité. Vous arrivez à un nouveau carrefour, finalement, Michael Langlois ?
Le fait d'avoir accès à l'ensemble de la documentation, c'est vrai que ça change la donne. Dans les premières années, on rendait compte de la documentation au fur et à mesure où on l'a trouvée, au fur et à mesure où on l'a publiée. Et donc, la vision qu'on avait de l'ensemble de ces manuscrits, des grottes dans lesquelles ils ont été découverts, éventuellement des communautés juives qui avaient pu produire ces documents, eh bien, cette vision, elle était très partielle, très limitée. C'est comme si on ouvrait un petit trou de lumière et on commence à regarder. Alors, on voit quelques petites ombres, quelques formes. On essaie forcément de faire des hypothèses. Et puis, les années passant, on a davantage de documentation et plus la documentation apparaît, c'est comme si l'ouverture s'agrandissait, c'est comme si ce qui était flou au départ se précise, et on se rend compte, par exemple, qu'au départ, on avait une vision assez resserrée, assez étriquée des milieux juifs qui avaient pu produire ces livres. On se rend compte aujourd'hui que c'est
vous
pas exactement
le cas. Vous faites allusion, par exemple, à la caractéristique des Esséniens, à l'identité de...
Voilà, par exemple, c'était une véritable problématique. Si on reprend historiquement l'ordre dans lequel les manuscrits ont été trouvés, au début, on a de toute évidence des manuscrits qui font état de croyances bien particulières qui ne semblent pas être celles que l'on connaissait des mouvements dits majoritaires pharisiens.
Croyances sectaires, en fait.
Alors, le terme
c'était
de secte
excessif.
Est un petit peu difficile. On va dire, on va parler de communauté ou de dénomination. Mais on s'est posé la question. Au début, on parlait éventuellement de Sadducéens, hein, parce qu'il était question des fils de Tzadok. Et puis après ça, on a dit, non, mais finalement, c'est plutôt des Esséniens. Et puis, petit à petit, la documentation s'est étoffée. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de manuscrits, y compris des manuscrits qui avaient des idéologies qui étaient incompatibles, voire contradictoires entre eux. Et alors, on a commencé à se dire, mais finalement, parmi tous ces manuscrits, tous ne font pas forcément état des mêmes croyances ou d'une homogénéité dans l'idéologie. Et donc forcément, ça oblige à revenir sur ces postulats de départ, sur ces premières hypothèses. Et aujourd'hui, comme on a l'intégralité de la documentation qui est disponible, ou presque, il manque juste deux volumes à publier, mais les textes ont déjà été publiés une première fois, mais c'est juste dans la publication officielle qu'ils n'ont pas encore été publiés. En tout cas, on a accès à ces documents, et ça nous permet vraiment d'avoir un regard neuf.
André Paul.
Et j'ajouterai quelque chose aux choses très pertinentes
de Michael Langlois.
C'est que la recherche sur les textes que l'on appelle de Qumran a relancé une autre recherche sur les témoins antiques que nous avions déjà de cette société, c'est-à-dire la littérature de Philon d'Alexandrie, qui vient une œuvre immense. Philon d'Alexandrie, c'est un grand exégète, commentateur de la Torah, entre autres. Il a écrit d'autres œuvres que nous avons également, qui vivait donc dans un milieu judéo-grec. Quand je dis judéo-grec, c'est philosophiquement parlant, très platonisé, platonicien, à peu près à l'époque du Christ. Et Philon d'Alexandrie nous parle des Esséniens, mais à sa façon, d'un commentateur plutôt allégorique, pas exclusivement, mais plutôt allégorique de la Torah. Donc il y a une allégorisation, c'est-à-dire un transfert de sens, oui, d'une réalité dont il était peut-être témoin, ou dont il avait entendu parler, qu'on appelait a posteriori peut-être essénisante ou essénienne, et il la projette quand même dans une idéalisation de la loi de Moïse. Bon. Et il y a également un autre grand témoin, qui a écrit à la fin du siècle premier, c'est-à-dire à peu près au moment où les évangiles commençaient à circuler d'une façon définitivement rédigée, c'est Flavius Joseph, qui a écrit deux grandes œuvres, entre autres, deux grandes œuvres que nous avons, La guerre des Juifs, où il y a toute un grand développement, un véritable chapitre, disons une cinquantaine de pages, nous dirions, sur les Esséniens dont il parle, et en même temps, il fait également mention, dans sa grande œuvre d'apologie de la nation judaïque, la sienne, les antiquités juives. Donc, entre autres choses, on a relancé l'interprétation et la compréhension de ces grandes œuvres qui parlent des Esséniens, qui ont été écrites dans l'Antiquité aussi juive. Et ça, c'est extrêmement intéressant, car autant la compréhension de l'ensemble du corpus, autant on revoit aussi la compréhension et l'intelligence qu'on peut avoir ces témoins antiques. Jusqu'à récemment, d'ailleurs, on mettait l'accent sur les ressemblances qu'il pouvait y avoir entre ces Esséniens que l'on essayait de retrouver à tout prix dans les différents textes, les règles, entre autres, découvertes dans les grottes de Qumran, et ce que pouvait dire surtout Flavius Joseph sur les Esséniens en question. Alors, des Esséniens, il n'en est question nulle part, dans aucun des textes de Qumran, dans aucun des textes du Nouveau Testament, dans aucune des inscriptions retrouvées à l'époque, dans aucun des textes, des kilomètres de textes que l'on appelle rabbinique, le Talmud et autres. Or, maintenant, on met l'accent de plus en plus, si j'en juge par tous les livres que je peux recevoir et dont je rends compte dans les revues, on met l'accent surtout sur les différences. Et les différences sont éloquentes elles-mêmes, parce que ça remet en cause non seulement la méthode d'approche des textes de Qumran, mais celle d'approche des témoins antiques. Alors là, évidemment, c'est une autre façon de dire que les choses recommencent.
C'est reparti. Oui, alors on va poursuivre, je suis désolée, le temps file malheureusement. On poursuit avec vous, Michael Langlois et André Paul, dans deux minutes, après une petite pause musicale. Je rappelle donc que vous travaillez, bien sûr, sur Qumran et les Esséniens. C'est le titre de votre dernière publication, André Paul. Qumran et les Esséniens, l'éclatement d'un dogme, paru aux éditions du Cerf.
Radio Notre-Dame. Oh.
Poursuivons cette émission sur les découvertes de Qumran 1947-1956. C'est la période sur laquelle s'étend cette découverte de 900 rouleaux juifs datés du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère. Que nous révèlent ces manuscrits? On en parle aujourd'hui avec vous, André Paul. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de ce dernier ouvrage, Qumran et les Esséniens, l'éclatement d'un dogme, paru en 2008 aux éditions du Cerf. Avec nous également Michael Langlois. Je rappelle que vous êtes docteur en philologie et vous faites partie des traducteurs de la bibliothèque de Qumran. C'est le document que vient de publier également l'édition du Cerf, donc une édition que vous dirigez, André Paul. Alors, on a évoqué toutes ces questions que soulèvent les nouvelles découvertes, finalement. Alors, vous nous le disiez, André Paul, les manuscrits de la Mer Morte renouvellent notre vision du milieu direct qui vit se manifester Jésus-Nazareth. Qu'est-ce que nous pouvons, finalement, deviner des personnalités initiatrices du christianisme? Parce qu'on évoque des tas de choses, mais finalement, alors, que nous disent clairement... Que nous révèle-t-elle finalement toutes ces découvertes
sur les personnes elles-mêmes, oui. Sur les personnalités, pas grand-chose. Je n'irai rien du tout. En revanche, sur la culture qui les a nourris,
oui.
Et la culture, tous les schèmes, toutes les représentations, toutes les images, tous les concepts, dirions-nous, qui ont formaté, pardonnez ce terme, qui ont formaté leur conscience culturelle et religieuse et spirituelle de l'époque, dans la mesure où on pense communication, et communication c'est réception et c'est ensuite transmission, dans ce sens on apprend beaucoup de choses.
Alors il y a une phrase très choc que vous publiez dans votre livre, le discours « les chrétiens ont reconnu le Messie, les juifs non » doit être banni.
Vous me posez une question, très très vaste question. Bon, il se trouve que c'est l'une de celles que
j'ai... Il faudrait 4 heures pour
répondre. Oui, mais puis c'est une de celles que j'ai beaucoup travaillée et qui me passionne énormément. C'est la question du messianisme de Jésus, finalement. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on savait sur le Messie? Mais je dis le Messie dans le sens formel du terme. D'abord le mot, avec un grand thème, dirions-nous aujourd'hui. Ensuite, sur le concept lui-même, dans la mesure où il évoque une personnalité, un héros, dirions-nous, de la fin des temps, avec des fonctions précises, que savions-nous avant les découvertes de Qumran? Il y a un texte en grec qui s'appelle les psaumes de Salomon, on le trouve, mais on ne sait pas trop à quelle époque il faut le dater, enfin est-ce qu'il est pré-chrétien, para-chrétien, etc. Mais enfin, où on trouve l'affirmation d'un messie, fils de David, bon, là on trouve le mot, mais c'est tout, c'est en grec, c'est tout ce qu'on avait à peu près tout. On procédait comment? On procédait à partir du Nouveau Testament, et surtout des évangiles. Et on remontait ensuite, on essayait de décanter, et puis on remontait jusqu'à l'Ancien Testament, et on essayait de retrouver des textes d'Ancien Testament prophétiques ou des oracles qui ont été interprétés tardivement et dont l'interprétation a été plus ou moins homologuée d'une façon précise et originale dans le Nouveau Testament par les médiateurs chrétiens, et dont on retrouvait ces textes que l'on étiquetait comme messianiques. Mais le messie dans le sens formel du terme n'y était pas, parce que messie c'est un terme, disons, c'est la paraphrase ou la translittération de machia ou machira en hébreu ou en araméen, c'est translittéré carrément, hein, mais c'est un adjectif qui veut dire, en hébreu ça veut dire disons recouvert d'huile, bon, pour un acte rituel ou non. Un sportif, par exemple, on le recouvrait d'huile, le combattant également, mais il y avait aussi, disons, un rite d'onction d'huile, donc il était machiar, c'était le roi, le prince, le chef de guerre surtout, le prophète, le prêtre, etc. Il y avait tout un tas de fonctions, mais c'était un adjectif. Mais ce mot-là, disons, on ne le connaissait pratiquement pas. Et on procédait donc à partir de Jésus, Christ, le Messie. Alors on reconstituait les choses. Alors effectivement, on n'arrivait pas à avoir une approche bien précise, bien concrète, bien sûre. Et ensuite, il y avait d'autres textes beaucoup plus tardifs. Alors c'était dans le Talmud. La Mishnah n'a pratiquement pas de Messie, mais un peu plus tardivement, les commentaires de la Mishnah que sont le Talmud ou les deux Talmuds, eux, réintroduisent les Écritures, réintroduisent à ce moment-là le Messie, c'est évident. Il y a toute une représentation du Messie, fils d'Abi, etc. Mais on procédait ainsi. Bon, actuellement, nous avons des témoins directs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes de Qumran dans lesquels nous trouvons non seulement un Messie, mais plusieurs Messies. Alors, on peut, si vous voulez, classer un petit peu les affaires. Nous avons des textes où intervient un Messie tout court, tout seul, Machiar, Messie, avec des fonctions, de chef de guerre, des fonctions, disons, toujours vers la fin des temps, qui est précise, avec des règlements ou pas des règlements, enfin, des activités définies ou pas définies, mais enfin, c'est un mot qui intervient avec une fonction, déterminante pour l'échéance ultime, de l'histoire.
Bon. Vous confirmez, hein, Michael Langlois, parce que...
Ensuite, il y a un deuxième Messie, qui intervient. Celui-là, il peut s'appeler aussi Messie d'Israël, c'est-à-dire le Messie descendant de David. Et quelquefois, il y a les deux sont joints. Il y a le Messie d'Israël et le Messie d'Aaron, ou le prêtre, ou le Messie sacerdotal. Bon, alors le débat, pendant longtemps, de Michael n'était pas né quand ça a commencé, c'est-à-dire on se disait, est-ce que le Messie d'Israël, le Messie d'Aaron, ça fait deux ou ça fait un seul? On ne sait pas trop. Actuellement, je crois que, si j'en juge par les derniers travaux que j'ai pu lire, tout le monde est à peu près d'accord qu'il y a deux Messies différents. Ensuite, il y a... je précise que dans certains textes, la préscience est donnée au Messie d'Aaron, c'est-à-dire au Messie sacerdotal, au Messie prêtre. L'autre est un peu son subalterne, c'est un peu quelque chose le brassiculier, d'une certaine façon. Vous avez ensuite une identification de figure messianique, non pas de Messie, mais de figure messianique, qu'on peut appeler quelquefois prophétique et d'autres fois céleste. Alors, vous avez des figures.
Plus mythologique, finalement.
D'une certaine façon, on peut en épingler les deux. Vous avez la figure du Fils de Dieu, qui intervient dans un texte araméen célèbre, que j'ai analysé dans ce livre que vous avez sous les yeux, Qumran dans les Esséniens, sur lequel on a écrit énormément. Et c'est un texte qui ressemble d'une façon très très proche à l'annonce faite à Marie de l'évangile de Luc, avec des formules à peu près identiques. Bon, il se trouve qu'il y a des traditions communes qui ont été reprises de part et d'autre, mais il y a cette idée du Fils de Dieu, bon, qui est quand même un personnage, un leader céleste, suprême, etc. Vous avez encore une autre figure, Melchisédek. Melchisédek qui apparaît, on le voit furtivement dans l'Ancien Testament, très très peu, mais il apparaît dans les textes de Qumran et surtout dans un grand texte, qui est un texte de commentaire, d'une certaine façon, de commentaire de certains textes d'écriture, où il apparaît comme le juge suprême de la fin des temps. Il est l'un des dieux, enfin, c'est-à-dire, c'est un dieu des êtres célestes qui se retournent la cour. Enfin, il a une fonction qui est complètement sublimé par rapport à tout ce qui peut représenter des interventions terrestres ou des interventions militaires ou autres. Alors bon, on a l'impression que ces représentations du Messie sont un peu éclatées, ouais. Et que la chose messianique est en recherche. C'est un petit peu la conclusion que je suis tenté de tirer. Elle est en recherche. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenue, disons, une personnalité qui s'appelle Jésus de Nazareth. Bon, alors la question se pose, premièrement... Comment on l'a identifié lui-même par rapport à cet assortiment un peu éclaté?
Finalement, est-il un aboutissement?
Et comment lui-même? Moi, je vais jusque-là. Comment essayer d'imaginer sa conscience messianique? De quel ordre était-elle par rapport à cet assortiment qui s'est... Alors là, d'un premier côté, j'essaie de me situer dans une dynamique plus historique. Du deuxième, j'essaie de me situer du côté du théologien. Oui, on en dira tout à l'heure.
Alors,
davantage.
Voilà, c'est une problématique. L'émission passe très très vite.
C'est une problématique là. Hein.
Michael Langlois, vous avez planché sur la question un petit peu.
Bon, c'est-à-dire que, pour résumer, la pensée messianique, elle existe. On la trouve déjà dans la Bible hébraïque. Il y a des gens qui ont un rôle très spécial. André Paul en parlait tout à l'heure. Il y a la figure royale, un chef militaire qui va gérer l'administration, on va dire l'ensemble de la population, de la nation.
Il va y avoir un chef qui va être religieux, un grand prêtre, qui va s'occuper de la vie spirituelle. Et puis, il y a une figure qui est la figure du prophète, qui reçoit des révélations, qui est un petit peu indépendant, qui peut aller parler au roi, qui peut aller parler au grand prêtre, qui est là pour être le porte-parole de Dieu. Et ces personnages-là, évidemment, sont investis d'une autorité toute particulière. Et c'est de là que vient cette idée d'être un messie, c'est-à-dire d'être oint, d'avoir reçu cet appel particulier, cette fonction particulière. Et c'est vrai qu'on voit des textes dans la Bible hébraïque, la figure messianique se dessine, ou plusieurs figures messianiques se dessinent. On avait des textes qui étaient plus tardifs qui en parlaient, et puis c'est vrai qu'on avait un petit trou, on manquait de documentation pour expliquer comment cette pensée avait pu se développer. Et c'est vrai que dans les manuscrits de Qumran, on a d'un seul coup un éclairage avec ces différentes figures qui se développent, qui s'étoffent, et effectivement, comme le disait tout à l'heure André-Paul, on a une divinisation presque, c'est-à-dire les anges commencent à intervenir, et ces personnages-là deviennent vraiment surhumains, surnaturels. Il y a évidemment des influences d'autres mythologies, et évidemment, on est à l'époque des manuscrits de Qumran, à l'époque de la naissance du Nouveau Testament, on est à une période où cette pensée messianique, elle foisonne, et où il y a bien évidemment une attente messianique qui est très forte. On attend le Messie. Tout le monde n'attend pas forcément le même Messie, les attentes ne sont pas les mêmes, mais il y a une véritable attente. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de se rendre compte que c'est précisément à ce moment-là que Jésus intervient.
Alors justement, cette arrivée de ce Messie est-elle un accomplissement ou est-elle une rupture, une nouveauté ?
C'est-à-dire, il y a les deux. De toute façon, l'accomplissement et la rupture, ce qui fait le fondement du christianisme. Hein. Il y a rupture et en même temps continuité, dont accomplissement. Mais accomplissement dans le sens où il y a quelque chose qui a mûri, qui se détache. Hein. Mais merci à Michael Langlois d'avoir donné ces précisions. Il se trouve que j'ai un propos et disons des développements qui est beaucoup plus disons séculier que le sien, j'imagine, parce que je fais partie de cette tendance qu'on appelle minimaliste, c'est le mot qu'emploient les savants, en ce qui concerne l'interprétation du messianisme de l'Ancien Testament, car je le considère qu'il n'y en a pas. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine façon, je considère que le messianisme formellement commence à partir de l'instant où il y a une institution du mot lui-même, messie, et d'une fixation, et le restant, ce sont des interprétations que l'on a données plus ou moins a posteriori, tradition d'interprétation de certains oracles de l'Ancien Testament que l'on a identifié, épinglé, et dans la continuité de quelles interprétations se situe le Nouveau Testament et l'accomplissement du Christ. Enfin, ceci, c'est pour apporter, disons,
des précisions.
Ce sont deux points de vue qui correspondent d'ailleurs de tendances dans la recherche elle-même. Moi, je fais partie des gens qui considèrent.
C'est pourquoi nous vous avons invité.
Absolument.
Tous les deux.
Je en vieux routier que je suis, je considère qu'il n'y a pas de Messie dans l'Ancien Testament. Michael, noblement, représente l'autre qui est maximaliste et au contraire qui essaie de valoriser davantage. Peut-être on n'appartient pas à la même appartenance, on n'a pas la même appartenance confessionnelle, je crois.
Je ne crois pas que ce soit lié.
C'est toujours plus.
L'un est catholique, l'autre protestant, c'est cela.
Ouais. Je crois que. Moi, je représente quand même une tradition. Je suis né catholicus, je dis toujours. Je suis né paganus, c'est-à-dire paysan, fils de la terre, et catholicus. Je suis né les deux en même temps. Je suis devenu chrétien après par le baptême. Je suis né catholicus. Et je crois qu'on n'y coupe pas. Hein. Je crois, c'est très important même. Je vois, je me permets cette petite parenthèse, mais quand je lis des interprétations, même les positions qui sont prises par rapport au texte de Qumran, je vois ceux qui tiennent encore à considérer certains textes comme sectaires, ou pas sectaires, qui font cette distinction. Moi, je ne la fais absolument pas, n'absolument plus, mais ça correspond toujours à une appartenance plus ou moins inconsciente, plus ou moins déclarée, soit appartenance nationale, soit appartenance confessionnelle.
André-Paul, on va être obligé de fermer vite la parenthèse, parce qu'on n'a plus que 7 minutes.
Oh mon Dieu.
Donc, il faut absolument que vous nous disiez l'un et l'autre, finalement, ce que nous révèlent les manuscrits de Qumran sur cet aspect messianique.
Je reviens à Jésus. Il est certain que Jésus a été acclamé de son vivant comme un messie royal, messie d'Israël. Ça c'est incontestable. Il ne pouvait pas ne pas l'être.
Messie au sens d'attendu, de voix.
Oui, puis en même temps, le messie dans un sens d'intervenance d'une société, parce qu'on considère que cette société, c'était la dernière. Maintenant, c'était l'échéance ultime, et on allait donc restaurer la paix universelle, mais par les armes aussi, éventuellement, s'il le fallait. Enfin, ça c'était des caricatures, mais des caricatures qui faisaient partie de cette imprégnation culturelle ambiante de la société de l'époque dans laquelle Jésus et tous les gens qui l'entouraient vivaient. Mais lui-même, bon, Comment a-t-il vécu ceci? Moi, je suis convaincu, ayant passé ma vie à interpréter aussi, à lire les textes du Nouveau Testament, à essayer de les comprendre à la lumière du judaïsme contemporain, je suis convaincu que Jésus avait une conscience messianique. Je suis davantage dans une démarche théologique.
Hein. Oui.
Je suis convaincu que Jésus avait une conscience messianique, mais qui était beaucoup plus proche, disons, de la deuxième et troisième catégorie, c'est-à-dire du Messie prêtre et du Messie sublimé, céleste, à la Melchisédek, et qu'il assumait ça avec, disons, les médiations culturelles et les révélations intimes qui étaient les siennes, et dont il essayait de faire lui-même la synthèse. Et d'ailleurs, c'est cette synthèse qu'il a formulée en annonçant le royaume des cieux, et qui a été ensuite reprise, systématisée par des théoriciens comme Paul de Tarse, qu'il s'agit ainsi. Et c'est pas pour rien que l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, nous présente Jésus le Christ comme étant non pas Melchisédek, mais étant bien au-dessus. Enfin, on établit toujours la comparaison entre le prototype qui n'était pas le vrai et le vrai qui était à la fois sacrificateur et sacrifié, qui est le Christ Jésus.
Michael Langlois, vous, que retenez-vous de cette lumière apportée par les manuscrits de Qumran sur ce Jésus-Messie en 1 minute 30, malheureusement?
En 1 minute 30, non, bon, on ne sait pas grand-chose du Jésus historique. Si, la question, c'est quelle est la fiabilité qui peut être accordée aux évangiles et aux récits du Nouveau Testament. Ouais. En dehors de ces récits, on sait finalement bien peu de choses sur Jésus. Donc moi, j'aurais du mal à parler de ce dont Jésus lui-même pouvait être conscient. Tout ça, ce serait des reconstructions. Ce qui est sûr, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a à la fois une continuité et une rupture. La continuité, c'est parce que les gens attendent la venue d'un Messie. Quand on parle du Messie à des Juifs à l'époque, ils savent très bien de quoi on parle. Personne ne va dire, mais qu'est-ce que c'est quoi un Messie, de quoi vous parlez? Tout le monde attend. Surtout que la situation est un petit peu difficile. Il y a les Romains qui sont là, on est dans une situation qui est assez dramatique. On attend l'accomplissement des prophéties, on attend le fils de David qui vient restaurer le royaume d'Israël. Et de ce point de vue-là, de dire à un juif, eh bien, le Messie est là. Alors là, les regards s'ouvrent et d'un seul coup, on est heureux. Maintenant, là où Jésus va surprendre, c'est parce qu'il ne répond pas forcément aux attentes messianiques de ses contemporains, en particulier sur un plan militaire. Jésus refuse le plan militaire.
Merci à tous les deux. Malheureusement, il nous aurait fallu 3 heures de plus pour pouvoir aborder toutes ces questions en profondeur. Alors, je vous propose simplement de vous référer au livre donc d'André Paul, Qumran et les Esséniens, l'éclatement d'un dogme, paru aux éditions du Cerf, et puis au magnifique ouvrage, La bibliothèque de Qumran, volume numéro 1, une édition bilingue des manuscrits, paru aux éditions du Cerf.